VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 27 septembre 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, nouvelle attaque hier contre un commissariat de police.
En République centrafricaine, au moins 2 morts à Bokaranga et 23 000 nouveaux déplacés dans cette ville et à Niamey.
L'opposant congolais Moïse Katumbi a menacé hier de faire appel à la rue si le président Joseph Kabila ne quitte pas le pouvoir.
Au Cameroun, l'Assemblée nationale a dénoncé hier une tentative de partition du pays.
En Ouganda, des députés en sont venus aux mains hier au Parlement au sujet de la limite d'âge du président.
Les États-Unis sont totalement préparés à une éventuelle option militaire contre Pyongyang, a assuré le président Donald Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, des hommes armés ont attaqué hier un commissariat de police et se sont emparés d'armes dans le quartier populaire d'Abobo, dans le nord d'Abidjan. On n'a pas signalé de blessés. Ces derniers mois, plusieurs attaques similaires ont été enregistrées dans le sud du pays. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
La série d'attaques de commissariats et gendarmerie se poursuit en Côte d'Ivoire. Des hommes armés ont attaqué ce mardi après-midi le commissariat du 34e arrondissement, situé dans la commune d'Abobo, plus précisément au quartier Abobo-Baouli. Des pistolets automatiques, deux kalachnikovs et une radio de transmission de la police ont été emportés. Une opération qui aurait duré moins d'une trentaine de minutes, sans faire de blessés. Depuis le début de l'année, des attaques armées contre des postes de police et de la gendarmerie à Abidjan et dans les villes de l'intérieur se sont multipliées. Des autorités ivoiriennes ont accusé des partisans de l'échec de l'État Laurent Gbagbo en les îles au Ghana d'être à l'origine de ces attaques. Le président ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé des mandats d'arrêt contre ces derniers, estimant avoir des preuves concrètes. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
En République centrafricaine, au moins 2 personnes ont été tuées et 5 blessées dans l'attaque de Bokaranga et quelques 23 000 personnes ont fui Bokaranga et Niamey, deux villes du nord-ouest proches du Cameroun en raison des violences. C'est ce qu'ont annoncé hier des sources militaires et humanitaires citées par l'AFP. Samedi, des hommes armés du groupe armé 3R, retour, réclamation et réhabilitation ont attaqué Bokaranga malgré la présence en ville de casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique. La MINUSCA a dit en réaction dimanche avoir aussitôt réagi et réussi à repousser ces éléments armés. Apparu fin 2015 dans le nord-ouest de la Centrafrique, le groupe 3R prétend protéger la communauté Peul contre les attaques des milices anti-Balaka.
L'opposant congolais Moïse Katumbi a menacé hier de faire appel à la rue si le président Joseph Kabila ne quitte pas le pouvoir et n'organise pas des élections d'ici au 30 décembre en République démocratique du Congo. Il y aura une transition sans Kabila, a-t-il assuré dans une interview à France 24. Ex-allié de poids de M. Kabila, ex-gouverneur du Katanga, richissime homme d'affaires passé à l'opposition en septembre 2015, M. Katumbi vit entre la Belgique et la France après avoir été condamné à 3 ans de prison dans une affaire immobilière qualifiée par les évêques catholiques de mascarade dans un rapport confidentiel. Moïse Katumbi a répété qu'il préparait son retour.
Par ailleurs, une coalition d'ONG dont Human Rights Watch et Amnesty International a appelé hier à la libération de 9 militants arrêtés en République démocratique du Congo. Ces militants avaient manifesté contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila au-delà de l'expiration de son mandat. Les précisions de John Linden.
Les autorités congolaises doivent libérer immédiatement et sans condition 9 militants pro-démocratie ou défenseurs des droits humains congolais détenus injustement pour avoir participé à des activités pacifiques, écrivent les signataires dans un communiqué regroupant 45 organisations de défense des droits de l'homme. En juillet dernier, 9 militants ont été arrêtés à Mbujimayi dans le Kasaï oriental et à Lubumbashi dans le Katanga. Ces militants sont accusés, selon les autorités, de s'être joints à des manifestations pacifiques appelant à la tenue des élections et au respect de la constitution congolaise. La coalition d'ONG dit avoir enregistré toujours en juillet l'arrestation d'au moins 128 personnes dans 9 villes, dont une dizaine sont poursuivies pour des charges motivées politiquement, d'après ces organisations qui exhortent le gouvernement de Kinshasa à respecter les droits des citoyens de manifester pacifiquement et d'exprimer leur opinion politique.
Au Cameroun, l'Assemblée nationale a dénoncé hier une tentative de partition du pays au moment où les séparatistes anglophones envisagent de proclamer l'indépendance des zones anglophones du Cameroun le 1er octobre. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont par ailleurs lancé un appel au dialogue, à la retenue et au bon sens. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, environ 20% des 22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme, tandis qu'une minorité réclame la partition du Cameroun, deux scénarios que refuse Yaoundé.
N'Djamena a convoqué l'ambassadrice américaine au Tchad pour exprimer son sentiment d'injustice après le décret du président Donald Trump interdisant aux Tchadiens l'accès au territoire américain Ekiabadou.
Abdoulaye Sabré Fadoul, secrétaire général du gouvernement qui assure l'intérim aux affaires étrangères, dit avoir pris bonne note de cette décision regrettable et a exprimé un sentiment d'injustice. L'ambassadrice américaine Guetta Passy a répondu que cette décision n'entame en rien les relations excellentes entre les deux pays. Le Tchad, la Corée du Nord, le Venezuela ont été ajoutés dimanche sur la liste des pays visés par le décret du président américain interdisant l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de ces pays. La Maison-Blanche estime que le Tchad ne partage pas de manière adéquate les informations sur la sécurité et le terrorisme, alors que le groupe État islamique, Al-Qaïda au Maghreb islamique et Boko Haram sont présents sur son territoire. Le Tchad, qui a subi des séries d'attaques de Boko Haram, participe à la lutte contre les djihadistes au Mali et au Nigeria. N'Djamena, déjà membre du G5 Sahel, abrite aussi le quartier général de l'opération Barkhane.
En Ouganda, des députés en sont venus aux mains hier au Parlement. La raison, un amendement constitutionnel voulu par le parti au pouvoir pour supprimer la limite d'âge pour les candidats à la présidence du pays. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Les tensions se sont transformées en violence lorsque le chef du groupe parlementaire de l'opposition a accusé un ministre de l'avoir menacé avec un pistolet au Parlement. Il s'en est suivi une empoignade, des coups de poing, des injures de toutes sortes et des dossiers ont volé en éclats. Sur le campus de l'université Makerere, des étudiants ont bravé l'interdiction de manifester et ont porté des bandeaux rouges en signe de protestation. Certains avaient même érigé des barricades, mais les forces de l'ordre les ont dispersées avec des tirs de gaz lacrymogène. Selon le porte-parole de la police, Emiliane Kayima, 18 personnes, dont le chef de l'opposition, Kizza Bisseguié, ont été arrêtées. La constitution actuelle impose aux candidats à la présidentielle d'être âgés de 35 à 75 ans. Une modification permettrait à Yoweri Museveni, 73 ans, de se représenter pour un sixième mandat en 2021. À cause de cette bagarre au sein de l'hémicycle, cet amendement constitutionnel n'a pas été discuté.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Corée du Nord, le président américain Donald Trump assure que les États-Unis sont totalement préparés à une option militaire contre Pyongyang, alors que son administration annonçait de nouvelles sanctions en réaction aux tests nucléaires et tirs de missiles de Kim Jong-un. Nous sommes totalement préparés pour ce qui est de la seconde option, pas l'option préférée, mais si nous adoptons cette option, ce sera dévastateur, je peux vous le dire, dévastateur pour la Corée du Nord, a déclaré M. Trump.
Et d'autre part, le président américain a l'intention de se rendre mardi prochain à Porto Rico, où sont déplorées de dangereuses pénuries de vivres, d'eau potable et d'électricité, après le passage dévastateur de l'ouragan Maria la semaine dernière. M. Trump va également se rendre aux îles Vierges, territoire américain qui a été frappé de plein fouet, non seulement par Maria, mais aussi par le cyclone Irma, ce mois-ci. M. Trump a défendu la réaction de son administration dans ces deux territoires, que ses détracteurs ont qualifié de faible, affirmant que l'acheminement de l'aide était plus compliqué qu'au Texas ou en Floride, parce qu'on parle ici d'îles situées dans un vaste océan.
Victoire dans l'Alabama en état du sud de l'ultra-conservateur ex-juge Roy Moore, une élection primaire entre républicains qui n'aurait pas dû attirer beaucoup d'attention si son adversaire, le sénateur sortant Luther Strange, n'était pas publiquement appuyé par le président Donald Trump. Il y a aussi le fait que l'ex-stratège de M. Trump, Steve Bannon, appuyait le juge Moore.
Et puis, décision historique en Arabie Saoudite, le seul pays au monde qui interdisait aux femmes de conduire, va finalement les autoriser à prendre le volant, selon un décret royal dévoilé mardi. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Au Burundi, le taux d'inflation a augmenté de 13,9% en août, une tendance entraînée par la hausse continue des prix alimentaires. Le pays, très dépendant de l'aide internationale, subit des sanctions économiques depuis l'an dernier en raison de la crise politique déclenchée par le troisième mandat contesté du président Pierre Nkurunziza. Les sanctions ont aggravé une économie déjà moribonde qui repose sur les exportations de café et de thé et sur la collecte d'impôts. Le FMI prévoit une croissance nulle cette année. La Afreximbank va aider le Zimbabwe à honorer le paiement d'arriérés de dettes d'un montant d'1,8 milliard de dollars contracté auprès de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Ce remboursement devrait permettre à Harare d'accéder à nouveau à des sources de financement internationales. La Afreximbank, basée en Égypte, est devenue le plus important bailleur étranger du gouvernement de Robert Mugabe au cours des 4 dernières années. L'Afrique du Sud est en pourparlers avec Citibank pour étendre la période de remboursement fixée à fin septembre d'un prêt d'1,8 milliard de randes contracté par la South African Airways. Déficitaire et endettée, cette compagnie aérienne est toujours en quête de financement pour maintenir sa survie. Elle a reçu en juillet l'aide de l'État pour rembourser un autre prêt de 2,3 milliards de randes.
À présent, les sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En Europe, la deuxième journée de la Ligue des Champions est le Real qui s'impose à l'extérieur.
Et oui, le Real Madrid qui a remporté une victoire importante hier soir sur la pelouse du Borussia Dortmund, une victoire 3-1, grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo qui s'est illustré pour son 400e match avec le Real Madrid. Aubameyang avait réduit la score pour les Allemands. Dans l'autre match du groupe, Tottenham a écrasé la Poel Nicosie 3-0 grâce à un triplé de son attaquant vedette Harry Kane. Le Real et Tottenham sont leaders avec 6 points. L'AS Monaco a chuté à domicile contre le FC Porto, très réaliste, une victoire 3-0 pour les Portugais avec notamment le doublé du Camerounais Vincent Aboubakar. Le Beşiktaş Istanbul a enchaîné un deuxième succès pour conserver la tête de ce groupe G après une victoire face à Leipzig 2-0. Manchester City a battu le Shakhtar Donetsk 2-0, mais sans montrer une grande efficacité puisqu'il y avait 0-0 entre les deux équipes à la mi-temps. Naples s'est rassuré dans le même groupe face au Feyenoord Rotterdam, une victoire 3-1. Et puis Liverpool n'a pu ramener qu'un seul match nul de Moscou, 1-0 contre le Spartak. Dominateur durant toute la rencontre, le FC Séville s'est imposé logiquement face à Maribor, 3-0, un triplé de Wissam Ben Yedder.
D'autres rencontres.
Et le Paris Saint-Germain qui s'est offert Neymar pour franchir un cap en Ligue des Champions. Le Brésilien et sa nouvelle équipe passent un test important ce soir face au Bayern Munich. L'autre choc de cette deuxième journée va opposer l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann à Chelsea dans le nouveau stade des Colchoneros, le Wanda Metropolitano et ses 68 000 places. Parmi les autres rencontres, Manchester United se rend sur la pelouse du CSKA Moscou. La Juventus Turin reçoit l'Olympiakos et le FC Barcelone se déplace chez le Sporting Portugal.
Handball africain.
Suite du tournoi au Bénin de la zone KD 2 et 3. Trois matchs au programme hier. Le résumé avec Élisée Ongpatine pour VOA Afrique.
C'est une journée marquée par la bonne performance du Burkina Faso et du Bénin. Les deux équipes ont signé leur deuxième victoire dans cette compétition. Les Burkinabés, vainqueurs des Ghanéennes 30-20 et les Béninoises qui ont facilement déroulé devant les Maliennes 38-19. Très heureux, le ministre des Sports apprécie. On écoute Oswald Omeki.
Ça fait des années que le Bénin n'a plus abrité de compétition de ce genre. Nous reprenons les bonnes habitudes. Venez encourager nos filles, venez profiter du sport. Le Bénin est un pays de talent. talent, l'Afrique a du talent. J'espère que le Bénin remportera la victoire finale.
Le premier match de la journée a vu le Niger signer sa première victoire dans le tournoi. Troisième journée aujourd'hui et toujours trois matchs au programme. En première heure, Niger-Burkina Faso suivi de Ghana-Bénin. Le dernier match mettra aux prises le Mali au Togo. Cotonou, Élisée Ountati, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le dernier décret migratoire du président Donald Trump était à l'ordre du jour d'une rencontre d'urgence mardi à N'Djamena entre les autorités tchadiennes et l'ambassadeur des États-Unis, Gita Passy. Cette mesure inclut le Tchad parmi les pays dont les ressortissants sont interdits d'accès au territoire américain. Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre secrétaire général du gouvernement qui assure l'intérim aux affaires étrangères.
Madame l'ambassadrice a essayé de nous expliquer les manquements qui auraient conduit Washington à placer le Tchad sur cette liste. Et ces manquements ont un lien avec soit une insuffisance dans les informations qui ont été communiquées à la demande de services de sécurité américains, soit de retard dans la communication d'un certain nombre d'informations. En somme, c'est une addition de petites choses qui, mis bout à bout, ont justifié cette décision pour les Américains, pour les Italiens. On reste toujours dans l'incompréhension. Il faut comprendre une chose. Par année, il y a peut-être un millier d'Italiens qui font des demandes de visa. Donc, il y a une décision souveraine américaine pour imposer une restriction, c'est une chose. Mais ce qui a choqué, ce sont les motifs qui ont été invoqués pour un pays reconnu par ailleurs pour son engagement, pour ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. D'abord, c'est l'image de notre pays qui a été atteinte. Ce sont des motifs vraiment infamants qui ont été mis en avant pour justifier cette décision. Et c'est d'abord en cela que les Italiens ont été choqués. De surcroît, lorsque cette décision vient d'un pays qui a été toujours considéré comme un partenaire historique de notre pays.
De votre point de vue, vous êtes bien acquitté de votre part de collaboration dans la lutte contre le terrorisme.
Absolument. Je pense que nous sommes un exemple, pas seulement ici en Afrique, mais à travers le monde. Notre intransigeance politique contre le terrorisme est quelque chose qui est reconnu par tout le monde, y compris par le président Trump. On aurait pu, je pense, éviter cette décision si le gouvernement tchadien avait été saisi d'un certain nombre d'informations à compléter ou bien à fournir. Mais là, malheureusement, le mal, il est fait. Nous mettre sur la même liste que voilà un certain nombre de pays pour ce que nous faisons. D'ailleurs, même avec les États-Unis, avec les grandes puissances, avec nos voisins, c'est ça qui a choqué les Tchadiens.
Qu'allez-vous faire à présent?
Nous avons convenu avec Madame l'ambassadrice d'essayer de conjuguer nos efforts pour lever les réserves qui ont conduit à la prise de cette décision-là. Nous avons sincèrement regretté à la fois la manière contenue de cette décision, mais ça ne nous empêchera pas de continuer la collaboration afin de répartir de nouvelles bases.
C'était M. Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre secrétaire général du gouvernement tchadien.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, pénurie d'eau depuis plus de 4 mois à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. De Bukavu, notre correspondant Ernest Muhero.
Avec cette pénurie d'eau très sévère, les femmes et enfants dans plusieurs familles se privent de sommeil et veillent presque toute la nuit en train d'attendre, même au-delà des 0 heures, si l'eau va daigner couler de leur robinet. Le quartier populaire, tout comme ceux résidentiels de Bukavu, manque de l'eau de façon régulière, comme le déplore ici Fernando Ankana, coordonnateur de l'ONG Solidarité des Hommes.
Il y a une pénurie radicale et terrible d'eau. Vous pouvez vous imaginer, moi je vis dans un quartier résidentiel, à 0 mètre de la résidence du gouverneur. Nous sommes desservis par la même conduite d'eau. À aujourd'hui, j'observe plus d'une semaine, sans même pas une goutte.
Tôt le matin et souvent le soir, l'on aperçoit ça et là sur les artères de la ville des habitants qui trimballent les bidons jaunes à la recherche de l'eau. Le député national Eli de Bukavu, Kizito Mushizi, interpelle.
Maintenant, je suis dans ma ville, là, je ne reconnais pas. Le niveau de dégradation est tel. Bukavu, c'est devenu un désert. Bukavu est dans le noir. C'est une interpellation vraiment à ceux qui dirigent. On dirige pour le peuple.
Un calvaire quotidien dans lequel hommes, femmes et surtout les enfants bravent des dangers et se rendent tantôt au lac Kivu, tantôt à la rivière Ruzizi ou plus encore sur le bord de fontaines et sources d'eau où l'eau n'a rien de potable. Un constat amer, c'est qu'au niveau du lac Kivu et rivière Ruzizi, la même eau sur laquelle on fait la lessive et la vaisselle est directement puisée par d'autres pour usage domestique et des cuissons. Solange Loachiga du caucus des femmes du Sud Kivu pour la paix.
Conséquence des noyades. Les accidents routiers dont sont victimes les enfants qui sont allés chercher de l'eau. Par exemple, une femme qui se lave, qui prend les bains intimes avec n'importe quel genre d'eau, ça va occasionner des maladies.
Si pour la régie des eaux qui distribue l'eau dans la ville, cette pénurie est liée à la saison sèche qui fait baisser sensiblement les niveaux de la rivière Murundu qui desservit Bukavu en autre été, la population, elle, ne l'entend pas de cette oreille-là. Déjà en date du 1er septembre 2017, une coalition des militants des mouvements citoyens, Lucha, Réveil des Indignés, S40 et Amka Congo, ont observé un sit-in devant le siège provincial de la Régie des Eaux pour réclamer de l'eau à Bukavu. Quelques militants s'expriment.
Depuis le mois d'avril, c'est toute une grande difficulté dans la ville pour avoir de l'eau. Et la Régie des Eaux ferme ses oreilles, mais il envoie des factures.
Nous sommes indignés par la situation que nous vivons pour le moment. Beaucoup de familles n'ont pas de l'eau et nous sommes victimes des maladies d'origine hydrique. Des fièvres typhoïdes. Nous avons une institution qui nous rend ses services. Nous payons quand même nos factures. Nous devons lui demander des comptes.
Nous demandons à la direction de la Régie des Eaux de faire tout son mieux pour nous donner de l'eau. Parce que dans une grande ville comme Bukavu, il n'est pas supportable que nous continuions à assister à ces désordres-là.
Avec la saison de pluie qui pointe à l'horizon, plus d'un habitant de Bukavu caresse l'idée de voir l'eau à nouveau couler des robinets de façon régulière. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Rwanda, opposants et défenseurs des droits de l'homme en exil ont manifesté hier à Bruxelles devant le siège de l'Union européenne pour dénoncer ce qu'ils ont appelé la répression et les arrestations d'opposants rwandais. Notre correspondante Lucie Umikunwa était sur place.
Entre midi et 2h30, quelques dizaines de défenseurs de droits de l'homme et des opposants rwandais étaient réunis à la place Schuman devant le siège de la communauté de l'Union européenne. Sur les pancartes des manifestants, on peut observer les photos des opposants politiques détenus au Rwanda, les victimes de guerre civile de la région des Grands Lacs et des messages dénonçant les violations graves de droits de l'homme par le pouvoir de Kigali. Hier, les manifestants avaient choisi de dénoncer plus particulièrement la répression et arrestation contre les deux femmes politiques après avoir manifesté l'intérêt de diriger le pays. La première, Ingabire Victoire, avait été arrêtée en octobre 2010, puis condamnée à 15 ans d'emprisonnement pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre. La seconde, Diane Guigara, a été arrêtée officiellement ce dimanche après un mois de tension entre l'opposante et les services de sécurité. Exclue de la liste des candidats des élections présidentielles pour usage et usage de faux d'après la Commission nationale électorale, le chef d'accusation s'est alloué. La jeune femme âgée de 35 ans est aujourd'hui accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. Les partisans de des opposantes remettent en question les accusations et appellent à leur soutien. Chantal Boutera, membre du parti politique en exil Ishemapati, est venue de l'Allemagne.
Je me suis décidée de me déplacer pour d'abord soutenir toute la communauté rwandaise réunie ici pour justement montrer que les Rwandais ne sont pas d'accord sur la détention de Victoire et de Diane. C'est vraiment incompréhensible qu'un homme, soi-disant un homme, un chef d'État, puisse se permettre de prendre des femmes qui ont osé vouloir aussi participer à la politique du pays, à l'élaboration de la démocratie. Et pour cela, sans aucune autre raison, Paul Kagame se permette de les prendre, de les maltraiter, de les torturer de cette façon. Je suis venue ici devant la communauté européenne, pour l'Union européenne, parce que là, je sais qu'au moins tous les pays de l'Europe faisant partie de la communauté européenne vont nous entendre.
Les défenseurs de droits de l'homme et les opposants rwandais adressent une pétition collective aux pays membres de l'Union européenne dénonçant les dernières exactions de Kigali. Il demande des sanctions contre le président Paul Kagame récemment réélu pour son troisième mandat avec 98,8% des voix. Bissi Umukungwa, Bruxelles, pour la Voix de l'Amérique.
Coup d'envoi hier à la porte de Versailles à Paris du Salon professionnel du tourisme et des voyages. Le Sénégal, dont 30% des visiteurs viennent d'Europe, y prend part. Joint à Paris par Ekia Badou, le ministre sénégalais du tourisme, Mambay Tiang.
Ce salon-là est très important pour nous parce que pratiquement 30 à 40% de nos touristes viennent de la France, de l'Europe francophone.
Le gouvernement, en tout cas, a mis le tourisme au rang des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent depuis 2014. Pourquoi ce choix?
Il y a des aspects économiques. Il ne faut pas oublier que le tourisme, c'était 4 à 5% de notre PIB. Et étant donné que le président de la République a pour objectif 7% de croissance en 2017 et qu'actuellement on est vers 6,7, nous pensons que si nous boostons le tourisme, nous pourrons atteindre facilement ces 7% en 2017.
Pour booster le tourisme, justement, il y a plusieurs mesures, notamment il y a le retrait des visas. Avant, il fallait un visa pour se rendre au Sénégal. Et il y a aussi le côté sécuritaire avec de nombreuses zones, de nombreuses régions qui ont été sécurisées, notamment la Casamance qui n'est plus dans la liste noire.
Oui, c'est grâce aux efforts du président de la République qu'on en est arrivé à ce stade-là. Et ce n'est pas seulement sur l'aspect sécuritaire qui est très important et déterminant. Aussi, à part le retrait des visas aussi, il y a d'autres mesures, c'est-à-dire les investissements sur le tourisme en Casamance ont été défiscalisés sur 10 ans. Donc d'ici 10 ans, si un investisseur a envie de financer dans ce secteur en Casamance, il y a des facilités. C'est un environnement agréable à vivre, ça a un décor paradisiaque, ça a de la plage, il y a de la verdure. Donc il y a des atouts qu'on peut mettre en valeur en Casamance, c'est ce qui explique cette discrimination positive du président de la République par rapport à la Casamance. Et notamment, les problèmes de sécurité ne sont plus d'ordre du jour.
Par rapport au retrait des visas, est-ce que depuis qu'il y a ce retrait de visas, il y a plus de visites au Sénégal?
Avec le retrait de ces visas, nous constatons naturellement une amélioration du nombre de touristes au Sénégal.
Quels sont les chiffres?
Si je vous dis que nous passons de 700 000 à 1 200 000 actuellement et que nous visons 2 millions en fin 2017, je pense que ces chiffres-là parlent un peu. Donc il y a eu des efforts et des facilités qui ont été créées sur toute la chaîne de valeur. On ne peut pas se limiter seulement au tourisme balnéaire. Il y a des sites qui sont en cours d'aménagement, notamment à Pointe-Sarène, les îles du Saloum qu'on peut visiter, la mangrove. Il y a aussi Modjen qui est vraiment un endroit paradisiaque qui sera aménagé dans les prochains mois. Ça, c'est pour plus diversifier nos possibilités, mais surtout monter notre capacité d'accueil.
C'était le ministre sénégalais du tourisme, Mambay Tiang. L'Arabie Saoudite permet enfin aux femmes de conduire selon un décret royal publié lundi soir. La mesure entrera en vigueur d'ici à juin 2018, selon l'agence de presse saoudienne. Il s'agit assurément d'une avancée majeure pour les droits de la femme dans ce pays musulman ultra-conservateur du Golfe. Kadiatou Traoré a joint à Jeddah un enseignant malien résidant en Arabie Saoudite, M. Daouda Doumbia.
C'est un combat de femmes pour faire aboutir le droit de conduite. Dans ce sens, le roi a promulgué un décret publié dans les journaux saoudiens, des journaux crédibles comme Saudi Gazette, autorisant et garantissant le droit de conduite aux femmes.
Dans ce royaume ultra-conservateur, les femmes n'avaient jusqu'ici pas le droit de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est une avancée notoire dans la réalisation ou la mise en œuvre des droits des femmes dans ce pays?
Oui, tout à fait. C'est une grande avancée dans le cadre de l'émancipation de la femme, parce que depuis de nombreuses années déjà, on tend à aller vers cette ouverture, mais la lutte des femmes elles-mêmes et aussi beaucoup d'autres soutiens qu'elles ont de la part d'une certaine catégorie d'hommes et une certaine catégorie de la société évoluée, très évoluée d'ailleurs, qui tend à sortir un peu du conservatisme s'il faut le dire, mais pour aller vers une émancipation intégrale de la femme.
Quel constat peut-on faire de la situation de la femme aujourd'hui en Arabie Saoudite?
En effet, il y a eu d'autres décisions importantes et très concrètes, telles que le droit de vote et le droit d'être éligible. Aujourd'hui, les femmes sont éligibles dans les élections locales. Elles ont le droit de voter et elles ont le droit aussi de se présenter comme candidates. C'est ainsi qu'on voit au sein des municipalités des femmes élues dans les parlements municipaux.
Eh bien, c'était de Jeddah Daouda Doumbia, un enseignant malien résident en Arabie Saoudite.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en monde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.